par rapport avec les partis électoraux que vous connaissez. Bien, alors je referme la parenthèse. C'est un enseignement à propos d'une haftara. Assof, si fait mnevo machem. J'en ferai une unité. Il y a une grande différence entre achdout et ahidout. Ahdout, c'est l'union, ça va être notre sujet. Ahidout, c'est une notion de unité dans le sens de tous les mêmes. Comment on dit ça en français ? Ahidout, uniformité. Ça ne traduit pas exactement ahidout, mais c'est le sens. Et nous allons voir cet idéal de ahdout qui va être le remède à ce manque de diagnostic des signes de la fin des temps d'exil. Voilà que ce sera notre sujet d'après le Midrash. On sera désorienté quand les événements du Ketz Hayamim arriveront. Le texte, en vérité, c'est un verset de Daniel, c'est Ketz Hayamim avec un noum à la fin. C'est la forme araméenne qui est dans ce verset. Et les raisons pour ça, on a étudié à propos du nom de Benjamin, Benjamin. Vous vous souvenez de quel ? Mais, eh bien, à la place, il y a une consigne de unité qui va se dévoiler. Et je lis quand même le verset. « Heasefu ve'agid alachem, rassemblez-vous, ve'agid alachem, et je vous expliquerai, les agid, c'est pas seulement je vous raconterai, agada, c'est un récit explicatif. Et asherikha etrem, ce qu'il vous adviendra, be'acharit ayamim, à la fin des jours. » Ikabsu, je traduis encore le verset 2, Ikabsu, rassemblez-vous, et là la racine de se rassembler, c'est pas tellement le problème du Baal Hevrati, Aleph Samerpe, c'est le problème des kibbutzim, Ikabetsu. C'est la notion de rassemblement sous forme de communauté kibbutzique, finalement. Kibbutze Mata, dans le Keter que nous lisons à Moussav de Shabbat. Veshimaou, et écoutez, Ben Yaakov, fils de Jacob, Veshimaou, et écoutez, El Israël Abichem, à Israël votre père. Alors là, nous avons un verset des plus caractéristiques qui rassemble les deux noms de Jacob dans le même verset, Jacob et Israël. Cet enseignement que Jacob veut donner, il veut le donner dans l'identité Jacob, qui est l'identité Israël de l'exil. C'est un enseignement qui est donné dans l'exil et qui indique et qui vise la délivrance de l'exil, la fin de l'exil. Mais l'objectif, c'est de passer de Jacob à Israël. Et c'est là que nous avons l'expression « Israël Abichem ». Les fils de Jacob doivent savoir que leur père, c'est Israël. C'est la même personne. Son nom est Jacob lorsqu'il est en exil, et son nom est Israël lorsqu'il est sorti de l'exil. Il y a là une indication importante dans le verset lui-même. Je reviens à l'expression « Be'acharit Hayamim », et ensuite nous aborderons un verset du chapitre qui approfondira cette notion de consigne d'unité qui est indiquée dans ce que je viens de lire. Rassemblez-vous, faites unité pour écouter ce que je vais vous dire. C'est cela ce que Jacob dit. Okay. Deux grands maîtres de la tradition d'Israël ont eu cette force de être l'homme du rassemblement. Et c'est Moshe Rabbeinu et Shlomo HaMelech. Moshe Rabbeinu a été celui qui a été capable de rassembler tout Israël en une unité. Il en a fait une nation. Vayakhel Moshe et Kolada Bene Israël. Le verset de la Torah, Moshe est capable d'être le rassembleur. Kohelet, c'est le roi Salomon. Il est lui aussi capable d'être l'assembleur, le rassembleur. En français, on traduit Kohelet l'ecclésiaste. Parce que ecclésia en latin, c'est synagoga en grec, c'est-à-dire kahal en hébreu. D'ailleurs, s'il y a parmi vous des juifs turcs, la communauté s'appelait le kahal, chez les Nahon. Okay. Et aujourd'hui, on appelle ça le consistoire. Ne cherchez pas le rapport. Okay. Pour me dire en tout cas au problème, c'est qu'il y a une capacité d'être. L'homme qui fait kahal, qui assemble, et c'est à cela que fait allusion dans le verset. Et assez fou, il capte. Alors je reviens à l'expression Be'acharit Hayamim. On a l'habitude, c'est là que le chidouche de Massonère, on a l'habitude de traduire Acharit Hayamim par les derniers des jours. Acharit Hayamim. Il y a les Yamim, et Acharit Hayamim, ce qui est à la fin des Yamim. Thank you. הימים serait cette période là. C'est clair. C'est comme ça qu'on comprend habituellement. Alors que M. Neher a donné un sens plus précis à Harit Hayamim. C'est ce qui vient après les jours, à Harit Hayamim, et pas seulement les derniers des jours. Et à Harit Hayamim, c'est les lots. Il avait formulé cela de la manière suivante. Pour dire l'histoire en hébreu, on dit Divrei Hayamim. Vous connaissez l'expression? Bon, je crois que le terme français qui correspond, c'est à peu près les chroniques, ce qui arrive au jour le jour. Et alors, M. Neher, en parlant de la Shoah, avait dit, l'histoire d'Israël, il y a les jours et il y a les nuits. Et il y a Divrei Hayamim et il y a Divrei Halelot. C'est clair. Et le temps des Divrei Halelot, c'est Harit Hayamim. Il y a le temps des jours et le temps de ce qu'il y a après les jours. Et la période de temps d'après les jours, qui est donc les nuits, c'est la période de l'exil. Et par conséquent, lorsque les prophètes disent Vehaya Beacharit Hayamim, et il arrivera à la fin des jours, ça veut dire en réalité à la fin des temps d'exil. Et c'est ça le Ketz, dont parlait le Midrash. Est-ce que c'est suffisamment clair? Vous voyez comment ça se redit à notre sujet. Effectivement, surtout dans Jérémie, cette expression Vehaya Beacharit Hayamim, il arrivera à la fin des jours. Et ça ne veut pas dire la fin du monde, vous comprenez? Ça veut dire la fin des temps de l'exil, c'est très précis. La fin de Harit Hayamim. Si on cherchait la valeur numérique de Hayab et Harit Hayamim, vous aurez des surprises sur la semaine. Et il y a des dates de fin des temps d'exil et qui s'appellent le Cheshbon du Ketz. Quand arrivera la fin? Et Ketz, c'est donc la fin. C'est clair jusque-là? Top. Et voilà donc ce que je voulais vous citer. Et puis voilà ce qu'a dit le Midrash, qu'a cité Rachid depuis la Parashat Vayikra, en disant, rassemblez-vous, que je vous explique ce qui vous adviendra, et ta chair y craint et trême, ce qui vous arrivera. C'est abrupt comme expression. Des événements qui font irruption, ça s'appelle les korotes. Vous savez, pour dire l'événement, il y a plusieurs expressions en hébreu. Je vais citer l'expression d'Ivrei Hayamim pour dire l'histoire. En fait, le terme traditionnel, c'est les toladot. Toldot Am Israël, l'histoire des engendrements en Israël. Les modernes ont pris le terme grec, historia. Est-ce que historia, c'est grec ou latin? C'est latin. Et quel est le terme grec? Il m'échappe. C'est grec, historia. Passé en latin, sûrement. Non, c'est très bien. Mais historia, c'est l'histoire des événements, alors que toldot, c'est l'histoire du sujet des événements, ce qui se passe dans l'ordre des engendrements de l'homme qui fait l'histoire. Vous voyez, il y a une vision de l'histoire qui est radicalement différente. La vision des académiques, universitaires, c'est historia, c'est l'histoire des événements. Alors que le propos de la Torah et du Mikra en général pour dire l'histoire, c'est l'histoire de l'homme. Elle est ze sefer tolot adam. C'est bien clair. Mais nous avons des termes pour dire l'histoire des événements. C'est odot et korot. Odot, c'est l'événement qui peut être soit un bonheur, soit un malheur. Le terme de odot, lorsqu'il est dans les... Vous connaissez ce terme-là? Aleph, dalef, tav. Lorsqu'il est dans le verset, par exemple, lorsque Sarah intervient pour demander à Abraham de chasser Ishmaël et Agar, le texte dit qu'Abraham a eu du mal al odot beno, au sujet de ce qui arrivait à son fils. Alors, Ed, ça peut être un jour de fête, ça peut être un jour de deuil. Ed. Odot, c'est le sucre. Et puis, un autre terme, c'est les korotes. Les korotes, c'est des événements qui adviennent de façon abrupte, inattendue. C'est ce verbe qui est employé ici. Et ta chère, ikra etrem beharitaem. Ce qui nous adviendra à la fin des temps d'exil. Vous voyez comment cette révélation que projette Jacob est très importante. Et je crois que cette année, plus que les autres années, je me rends compte à quel point, effectivement, ça nous a manqué de notre temps, cette révélation-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été transmise, mais elle a été transmise à ceux à qui elle a été transmise. Mais elle fait partie du patrimoine d'évidence des hommes de la foi d'Israël, en général. Est-ce que c'est clair? Le verset le dit, que Jacob voulait transmettre ça à sa descendance, au niveau exhaustif, que tout juif sache de quoi sera fait la fin des temps d'exil. Et puis ça lui a été caché. Ça lui a été caché, nous allons demander pourquoi, Et à la place, il les bénit. C'est un texte en lui-même qui est très occulte, c'est difficile, on n'entreprendra pas la traduction de ce texte. Vous le lirez en traduction, vous verrez qu'effectivement, il y a là une prophétie de bénédiction. Il bénit Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, un par un, il leur donne une bénédiction. Il y a un cas particulier dans ce chapitre qui est très important. Chacun des enfants de Jacob a une bénédiction singulière pour lui-même, mais deux des enfants sont bénis ensemble, c'est Shimon et Lévi. Je vous signale ces sujets-là, ce sont des sujets d'études importants. Lorsque Moïse, lui, avant de quitter l'histoire d'Israël, va bénir les enfants d'Israël, eh bien, il bénira tous les enfants d'Israël, et puis Shimon disparaît. Il y a un mystère, le mystère Siméon. On pourrait écrire un roman. Et d'ailleurs, je ne sais pas, vous avez un quartier là, qu'on a consacré. Vous connaissez Saint-Simon, non ? D'ailleurs, je me rappelle, Rav Kook nous interdisait de dire Saint-Simon. Il nous demandait de dire à Simone. Et là, or, la figure de Siméon joue un très grand rôle dans la tradition chrétienne. C'est à lui que il a été dit « va déretro Satanas ». Bon, je ne vais pas vous enseigner ces choses-là, mais enfin... alors que la tradition juive, dès qu'on cite Shimon, c'est toujours un grand personnage, on ajoute Tzadik, Shimon HaTzadik, par exemple. Okay? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire le fils de la lumière. Mais Shimon, c'est le deuxième enfant et c'est un problème en soi. Je ne fais que le signaler. Pourquoi il est béni en même temps que Lévi et pas pour lui tout seul? Et pourquoi dans la bénédiction de Moïse, il disparaît? Et je vous ai cité ce verset des évangiles. C'est une indication que les rédacteurs des évangiles ont utilisé beaucoup de... Ils ont utilisé dans tout ce qu'ils disent, peut-être sauf dans l'Apocalypse où il y a beaucoup de mystiques grecs là-dedans, mais ils ont utilisé des traditions du Midrash qu'ils maîtrisaient en ce temps. Et pour comprendre les évangiles, il faut connaître le Midrash. Personne n'a souri. Okay? Parce que pendant 2000 ans, les chrétiens nous ont dit, il y a un voile entre la Bible et vous, le voile du temple. Vous connaissez cette tradition chrétienne ? Qu'il faut que les chrétiens vous apprennent à lire la Bible. Alors, je suis en train de vous dire l'inverse. Il faut que les juifs apprennent aux chrétiens à lire les évangiles. Je crois qu'ils commencent d'ailleurs à s'en rendre compte un peu. Et là, je referme la parenthèse. Au lieu de leur dévoiler les signes de la fin des temps d'exil, il est béni. Or, qu'est-ce que ça veut dire bénir en hébreu? Vous comprenez ma question? C'est un sujet très important. Nous n'aurons pas le temps de le fouiller ce soir, mais je voudrais quand même vous l'indiquer. Que ça veut dire qu'il les a bénis? Okay? Et vous avez le verset qui dit très clairement qu'il s'agit de bénédiction. Je veux dire quel est le verset. Prenez avec moi le verset 28, oui, du chapitre 49. Kolele Shifte Israël, ce sont là les tribus d'Israël, Shemassar 12, Vezot, Asher Divarlaem Aviem, et voici ce qu'a dit leur père à eux, ce que leur père leur a dit, Vaibarechotam, et il les bénit, Ish Asher Kevirkato Berachotam, chacun selon la bénédiction qui lui convenait, il les a bénis. Et vous voyez, à la place, encore une fois, de leur dire ce qui était son projet, Vaagid Alachem, Maché et Tachérikré etrem beharit ayamim, et je vous expliquerai ce qui vous adviendra à la fin des temps, des jours de l'exil, c'est bien clair l'analyse, il les a bénis. Qu'est-ce que ça veut dire bénir? En hébreu, c'est varer. Eh bien, je crois que nous allons une fois prendre un cours pour ce sujet-là, parce qu'il faut beaucoup de temps, mais en tout cas, j'utiliserai pour notre sujet, c'est que de dire la bénédiction de quelqu'un, je veux dire, bénir en hébreu est transitif. Bénir, c'est pas souhaiter quelque chose à quelqu'un. C'est pas simplement la formule, c'est que Dieu te bénisse. C'est un souhait. La bénédiction de la tradition juive, c'est... qui n'était pas. Et qu'est-ce que ça veut dire être béni? C'est pas simplement être l'objet d'un souhait, c'est être transformé en fait de bénédiction. Le signe de la bénédiction, c'est la fécondité. Je le dis très rapidement, vous remarquerez que il y a de la même racine, nous avons quelque chose d'assez étrange, comment dit-on le genou en hébreu, berer. Quel rapport avec bracha, barer? Eh bien, on serait tenté de dire, pour recevoir la bénédiction, on se mettait à genoux. Mais ça, c'est de l'imagerie de la chevalerie du XIVe siècle. Okay. Le sens est tout à fait différent. C'est que c'est le genou, et l'étymologie latine et grecque d'ailleurs aussi le confirme, les genoux, c'est l'endroit où la femme reçoit le signe de la bénédiction, c'est-à-dire l'enfant qui est en train de naître. C'est une expression du Mikra. Recevoir l'enfant sur ses genoux, ça veut dire Vetelel al Birkai. Et Birkai, mes genoux, littéralement, Berer, le genou, c'est l'endroit où.